48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine. Bonsoir et bienvenue sur 48 FM pour la rediffusion de votre magazine 48 FM Le Mag. Suite à un petit oubli d'enregistrement, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser les premières minutes de l'émission. Toutes nos excuses bien sûr à vous, auditeurs, mais aussi à nos invités, notamment Héloïse Coste, que vous ne pourrez pas entendre intégralement. Nos invités, ils étaient quatre, bien sûr, d'habitude Le Mag c'est trois, mais ils étaient quatre cette semaine, notamment donc Héloïse Coste de la DIL qui parlait d'habitat et des projets gouvernementaux sur cette question à venir pour 2013. Vous ne l'entendrez donc malheureusement pas, mais elle sera très prochainement sur nos ondes pour nous parler de la mise en œuvre de ces mesures. Vous retrouverez également, mais là cette fois-ci vous les entendrez, partiellement d'abord une page culture sur la saison culturelle du Blémard proposée par l'association Root Boy Crew, avec Antonin Bory et Sébastien Kuhn. Et puis, il y aura une page éducation-enseignement supérieur avec Monique Commandré de l'antenne universitaire de Mende. Et puis, une dernière page musique avec Loïc Loisel. Alors, nous allons retrouver l'émission en cours dans sa page culture avec donc Antonin Bory et Sébastien Kuhn de l'association Root Boy Crew. Ils nous parlaient de leur projet artistique et de l'accueil d'artistes sous la forme de résidence, notamment avec la compagnie Humani Théâtre.
Donc sur toute l'année 2013, c'est suite à leur venue sur un travail sur l'attentat en juin dernier. Donc là, ils vont revenir début mars travailler sur une résidence de reprise sur un spectacle de théâtre qui s'appelle Une petite entaille, qui est un spectacle qui a été créé pour être joué dans les collèges sur un texte contemporain. Donc ils vont le reprendre pour pouvoir aller le retourner ailleurs. Donc ils vont le jouer au collège du Blémard et aussi normalement en tout public en soirée chez nous. Et ensuite, ils seront présents un petit peu sur toute l'année pour présenter différentes formes de ce qu'ils font. Donc, il y a des Humani Théâtre, c'est une compagnie qui est entre le théâtre et le théâtre en extérieur. C'est pas vraiment des arts de la rue dans le sens où c'est plutôt des grosses machines en extérieur.
C'est des théâtres dans la rue, voilà. Comme ils disent souvent.
C'est exactement ça. Donc, du coup, on devrait avoir une présence d'Humani Théâtre dans le cadre du Festival d'Olt normalement. Ensuite, une diffusion de l'attentat en extérieur au mois de juin. Et puis un projet d'un cabaret d'urgence version patrimoniale au mois de septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Voilà, plus des ateliers en milieu scolaire, plus un stage de pratique amateur. Enfin, voilà, c'est un projet à l'année, comme disait Antonin, c'est un projet qu'on est en train de construire avec des partenaires financiers, donc qui n'est pas encore complètement abouti et fini.
Est-ce qu'il y a une écoute de la collectivité sur ce genre de projet et sur votre travail en général sur le Blémard?
Oui, au niveau local, oui, avec les moyens locaux, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas à Mende, donc on n'a pas les mêmes moyens. On est bien suivi localement, et énormément au niveau mise à disposition de lieux,
puisque oui, ça
représente un coût important. Donc voilà, et puis après, au niveau des autres institutions, ça commence à aller mieux. On a intégré le réseau Diagonal au niveau de la région, donc qui fait qu'on commence à avoir un peu plus de moyens, notamment pour travailler autour des arts de la rue.
Alors vous avez aussi des activités de diffusion, et donc avec le festival, bien sûr, qui est l'aboutissement de tout ça, mais il y a aussi, si j'ai bien fait mes travaux préparatoires, deux dates de spectacles à retenir. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots aussi?
Alors, c'est deux spectacles donc effectivement qui pour le moment est arrêté. Il y en a d'autres qui sont en préparation pareil pour janvier à juin, mais voilà, vous découvrez un peu tout le programme au mois de décembre. Pour le moment, donc on a la mastication des morts de la compagnie La Vaste Entreprise qu'on va accueillir le 15 janvier. 13 janvier. Ouais. À Alinque. Donc pourquoi Alinque? Parce que c'est aussi toujours dans notre souci un peu d'itinérance sur notre territoire. Voilà, donc ce qui est en partenariat avec les Scènes Croisées de Lozère, un peu dans leur projet de diffusion de spectacles sur l'ensemble du territoire de la Lozère. Voilà, on l'accueille un peu dans ce cadre-là. Et puis, l'après-midi d'un fun de la compagnie Non Nova, qui nous sera présenté le 16 avril prochain.
Okay. Un très beau travail, spectacle pour qui concerne aussi le jeune public, exactement. Voilà, qui va être en tournée internationale d'ailleurs, ce spectacle, hein, un peu partout.
Et
qui est une révélation 2012.
Ouais. Bien, donc, et donc 9, 10 et 11 mai, qu'est-ce qui s'annonce pour cette 10e édition? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des scoops là aujourd'hui
De
qui...
la pluie.
De la neige.
Comme chaque année, de la pluie sous chapiteau, c'est génial.
Il y a deux choses qui sont certaines, c'est qu'il fera beau et a priori, vous pouvez commencer à cocher également votre date du mercredi 8 mai voilà, pour célébrer les 10 ans de façon différente.
Ah, je croyais que c'était le...
C'est justement parce qu'il y a un petit cadeau du calendrier pour les 10 ans. On a dit qu'on pouvait pas dire non, donc voilà, certainement une proposition d'un quatrième jour qui sera certainement différent des autres, puisque c'est le quatrième. Voilà, mais il faudra en profiter 8, 9, 10 et 11 mai.
Bon, en tout cas, on invite tout le monde à venir à ce merveilleux festival-là, avec une super équipe qu'il faut vraiment rencontrer, parce que pour moi, au-delà de la proposition artistique, je trouve que ce qui caractérise votre travail, c'est d'abord d'être sur un territoire qui n'est pas franchement facile. Effectivement, vous n'êtes pas à Mende avec des lieux de spectacle de renom et qu'une programmation folle. Mais ils arrivaient quand même à faire un boulot remarquable, à ramener du public chez vous, à donner, créer une dynamique. Moi aussi, parce que vous êtes jeune, et donc cette dynamique, elle est quand même normalement intrinsèque à la jeunesse. Mais voilà, de faire tout ce boulot qui est quand même incroyable sur ce territoire. Et je trouve que ça rajoute une dimension humaine à votre projet avec le Festival d'Olt, mais aussi la relation avec les compagnies qui découvrent, au-delà de la région, que même en milieu rural, comme on l'entend souvent en Lozère, quand on est perdu, on est loin de tout, la qualité de vie et la qualité d'accueil sont un petit peu nos forces et maintenant deviennent de plus en plus reconnues sur le territoire, en tout cas régional. Donc ça, c'est... Merci à vous pour tout ce boulot.
Je pense qu'il y a surtout une grosse équipe de bénévoles à remercier aussi derrière, parce que c'est quand même un peu la force vive de l'asso. C'est un peu le... Voilà, toutes ces petites mains qui drainent autour de l'asso et qui sont là pour un peu réaliser tous les projets qui ne pourraient pas se faire... qui pourraient pas se faire, on va dire, à quatre bras, quoi.
Et qui sont même là pour répondre aux jeux difficiles de 48 FM.
Ah, ils sont bons, quand même.
Merci, Colline.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner, pour avant de...
Et chanter une chanson.
Et qu'on passe à la page suivante de ce magazine. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait pour vous suivre? Voilà, est-ce qu'il y a des documents? Est-ce que le site internet? Dites-nous tout ça.
Alors, le site internet est en cours de mise à jour. Non, voilà, ben si, voilà, il y a le site internet où vous pourrez bientôt retrouver vraiment toutes nos actions pour 2013. Donc, qui est www.festivaldolt.org. Et puis voilà, on a aussi notre page Facebook et puis MySpace et compagnie où voilà, toutes les petites actualités de l'asso y sont présentes.
Est-ce que vous avez des salariés dans cette association? C'est pas une question piège, c'est de savoir alors, si en fait il n'y a que des bénévoles ou est-ce qu'il y a des gens qui sont...
On est aujourd'hui, on est deux, on va dire, coordinateurs à l'année. Donc non pas sur des contrats classiques, mais en intermittence. Donc on bascule aussi sur d'autres structures, à travailler avec d'autres structures. Mais on va dire voilà, que l'asso a deux salariés. Et puis, depuis cette année, une jeune, Sophie Arlotto, embauchée en service civique pour mener tout un travail de scénographie qu'on essaye de plus en plus
de développer
tout cet axe-là. Et donc voilà, elle vient de rejoindre la petite équipe au bureau.
Alors, il y a aussi un truc particulier à cette association, c'est que pour trouver des financements, en fait, ils s'exportent. Donc, ils exportent leur concept, et notamment, on les a vus cet été, Festival de Chalon dans la rue. Vous pouvez nous en parler deux minutes? Pourquoi avoir fait ça, en fait?
Pourquoi? Parce que Chalon, pour nous, dans le domaine des arts de la rue, ça a toujours été notre festival chouchou, on va dire. C'est le deuxième plus gros festival en France après Aurillac. Pour aller voir des spectacles, c'est beaucoup plus facile qu'Aurillac parce qu'il y a une moins grosse fréquentation. Les compagnies sont...
Il y a 350 000 spectateurs.
Sont sélectionnées. Oui, mais les compagnies sont sélectionnées, donc il n'y a pas absolument tout et n'importe quoi comme Aurillac. Du coup, c'est un peu plus facile pour aller voir les spectacles. On a toujours aimé le principe d'ambiance de cours, c'est-à-dire que ça nous arrivait en tant que pro de passer du temps dans une cour et de faire confiance à un peu au collectif qui gérait ça, même s'ils ne sont pas maîtres de la programmation, mais de passer du temps dans un lieu qui est aménagé pour accueillir le public. Et puis aussi pour des raisons financières, c'est-à-dire que de gérer une cour à Chalon dans la rue, ça nous permet de gérer une buvette et de la restauration pendant 4 jours, donc qui a permis de sauver un petit peu notre saison culturelle. C'est-à-dire que pour l'instant, on fait des actions qui n'étaient pas encore complètement suffisamment suivies par les partenaires publics et privés. Ça commence à être un peu mieux. Mais voilà. Puis aussi pour l'aventure, c'était une bonne aventure. On est monté à 25 de l'association. On a amené toute une scénographie. On a investi un lieu dans une ville qu'on ne connaissait pas plus que ça. Et on a proposé un accueil qui a été très très bien reçu de la part des compagnies, de la part du public aussi. Donc voilà, c'était un petit peu tout ça, et de la part du festival aussi. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire quelque chose qui nous permettait de nous développer, de rapporter de l'argent dans les caisses de l'asso, mais aussi de faire un truc qui est à notre image, c'est-à-dire dans le milieu des arts de la rue.
Et puis d'être ambassadeur aussi un petit peu des savoir-faire lausériens, quoi, qu'on n'est pas forcément des professionnels, qu'on peut être dans des associations et en fait avoir un travail professionnel tout en étant des bénévoles. Quoi.
Et c'est ça.
Profession, ce n'est pas lié au salariat. Quoi. Et il faut casser un peu cette idée parce que moi, depuis pas mal d'années, quand même, j'assiste à une montée, une qualité du monde associatif. Pas de prestations, mais de qualité de travail, d'innovation, d'entreprise. Hein. Il y a une façon d'entreprendre en Lozère par l'association qui est considérable et qui est malheureusement pas assez mise en valeur, à la fois par les collectivités sur lesquelles ces associations existent, et puis aussi par les pouvoirs publics. Quoi. Donc on met des fois beaucoup d'argent à créer des institutions, on ferait mieux de mettre beaucoup d'argent à aider les associations qui déjà existent sur ces territoires. En tout cas, bravo.
Merci.
Merci.
Alors, on va relancer le jeu parce qu'on a encore des places à vous faire gagner. Donc, toujours pour Asphalte, jeudi 25 octobre au Théâtre de Mende.
Comment s'appelle l'association qui gère le logement?
comment s'appelle, effectivement, l'association dont nous venons de parler?
Culturelle.
Voilà, association culturelle.
Sur le Blémard.
Sur le Blémard.
Qui organise donc, le Festival d'Olt.
Voilà, donc le numéro de téléphone, je vous le rappelle, c'est le 04 66 31 59 68. Et on se retrouve après une petite page musicale avec Olivia Ruiz.
Je voudrais juste une fois caresser ta peau blanche, la faire glisser entre mes doigts de ta nuque jusqu'à tes hanches.
48 FM Le Mag.
Et on se retrouve pour cette troisième page. Et aujourd'hui, il y en a quatre, donc ce n'est pas la dernière. Troisième page de ce magazine.
C'est bonus.
Sur l'éducation. Bah, c'était déjà bonus la semaine dernière. On avait quatre, alors.
Ouais, moi, on est bien.
Voilà. Donc forcément, on déborde. Enfin, c'est impossible. Donc, cette troisième page, c'est une page autour de l'enseignement supérieur avec Monique Commandré, qui est responsable de l'antenne universitaire de l'université de Perpignan via Domitia, Amande.
Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, donc bonjour.
Ça. Bonjour.
Merci de votre invitation.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'y fait dans cette antenne universitaire?
Ah, mais il y a une université, Amande.
Voilà, alors souvent on l'appelle IUP. Voilà, expliquer un petit peu peut-être quelques éléments d'histoire qui expliquent cette appellation, peut-être.
Oui, effectivement, cette structure elle a été créée en 1994 sous forme d'un IUP, Institut Universitaire Professionnalisé. Et puis en 2004, il y a une réforme importante qui a structuré l'enseignement supérieur. C'est la réforme LMD, licence, master, doctorat, qui est une réforme qui vise à harmoniser un petit peu l'offre de l'enseignement supérieur au niveau européen.
Ouais,
et
c'est
faciliter la mobilité étudiante entre les pays membres de la communauté européenne, au-delà des programmes déjà existants. Et donc, dans le cadre de cette réforme, les IUP ont progressivement disparu. Et donc l'IUP demande a évolué et est devenue une antenne universitaire de l'université de Perpignan. Alors c'est historique, hein. Déjà quand c'était un IUP...
C'était rattaché déjà.
Voilà, on dépendait déjà de l'université de Perpignan. Et donc depuis 2004, progressivement, c'est structuré autour de ce statut d'antenne universitaire. Et puis on a modifié un petit peu l'offre de formation, parce que les IUP c'était un recrutement à Bac+1. Et dans le cadre de la réforme LMD, on est passé à un recrutement à Bac+2. Donc le premier niveau de diplôme, c'est la troisième année de licence qui est proposée ici à Mende.
Alors justement, quelle formation peut-on faire à Mende?
Alors, il y a une filière tourisme qui est historique, hein, puisque justement en 1994, quand cette structure a été créée, ça a été sous forme d'un IUP en tourisme. Donc cette filière est très présente avec plusieurs diplômes. Donc la troisième année de licence dont je viens de parler, avec la possibilité de suivre deux options. Soit hôtellerie internationale, soit valorisation touristique du patrimoine. Donc à partir de la troisième année de licence, après un BTS, ou après deux années généralistes suivies dans une autre université, ou l'université de Perpignan, ou d'autres universités de la région ou de France. Et donc on peut venir chercher un complément de formation avec cette troisième année de licence. Ensuite, on a possibilité de continuer donc sur un Master 1 et puis un Master 2 en études européennes et internationales. Ça, c'est une valence qui est intéressante. Donc, tourner vraiment sur l'internationalisation des questions de mobilité et de tourisme. Et donc, avec les deux mêmes parcours optionnels et de spécialisation, donc hôtellerie internationale et conception de produits touristiques. Donc ça, c'est pour la filière tourisme. On a aussi, oui, j'allais oublier, une licence pro. Donc, c'est un niveau Bac+3. Où les étudiants sont censés s'arrêter à l'issue et trouver un emploi. Donc les licences professionnelles, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup plus de projets tutorés, une pédagogie peut-être un peu plus active que dans les niveaux master. Donc une licence professionnelle qui est spécialisée en tourisme d'affaires et festivalier. Donc on aurait des choses à dire avec les interlocuteurs précédents. Voilà, donc ça c'est pour la filière tourisme. Par ailleurs, on a de manière assez historique aussi une formation en multimédia. Donc c'est un projet qui a été retravaillé il y a 2 ans et c'est une licence pro qui s'appelle aujourd'hui communication numérique et e-activité. Donc qui forme à la conception plurimédia pour aller vite. Et puis la toute nouvelle formation qui a commencé là en septembre 2012, c'est une licence pro aussi, donc pareil, Bac+3, en secrétariat administratif des collectivités territoriales. Donc les licences pro, leur particularité, c'est c'est des projets qui sont souvent réévalués par le ministère, parce que l'idée c'est de coller au plus près aux besoins des secteurs professionnels. Donc on forme des niveaux 2, là, hein, des niveau de technicien plus, et donc de faciliter l'insertion professionnelle de ces étudiants qui suivent ces cursus courts, en fait, puisque la particularité de la réforme LMD, c'est donc effectivement de poser à un niveau européen le niveau de diplomation au Bac+3, hein, le premier niveau de diplomation, mais quid des BTS ou des DUT, qui très souvent, alors que c'est des diplômes qui ont une finalité aussi professionnelle, et très souvent les étudiants à l'issue du BTS ou du DUT, et depuis la réforme LMD, viennent chercher une troisième année de formation pour entrer dans les credos de cette réforme LMD et puis des attendus des professionnels.
Alors, combien d'étudiants, combien d'enseignants aussi? Parce que bah, pour faire toutes ces formations, c'est quand même, j'imagine, aussi une équipe importante. Est-ce que c'est tous les enseignants sont basés sur Mende, ou est-ce que vous bénéficiez aussi de votre université de tutelle de Perpignan?
Est-ce qu'ils sont tous bons? C'est une question piège.
Alors bon, il y en a certains qui font des cours de médiation culturelle. Non. Donc l'équipe permanente, oui, on est trois maîtres de conférence, trois enseignants-chercheurs, donc, qui pour l'essentiel ont fait le choix de venir dans cette antenne universitaire. C'est mon cas. Moi, j'étais sur l'université de Paris 10, puis sur l'université de Montpellier 3. Et puis voilà, j'avais envie de travailler dans un autre cadre que l'enseignement de masse. Et donc, j'ai souhaité absolument venir ici en Lozère. Donc, trois enseignants-chercheurs, un professionnel associé, ça, c'est aussi des statuts propres à l'université qui sont intéressants. Donc, c'est quelqu'un qui est à mi-temps chez nous et qui a, par ailleurs, une activité professionnelle, en l'occurrence dans le tourisme. Et c'est vachement intéressant pour les étudiants de pouvoir se confronter à vraiment quelqu'un qui est du CERAI. Par ailleurs, on a un attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc, ça, c'est un contrat qui touche...
Les photocopies
qui... Pas du tout. C'est à la pointe de l'innovation. Un attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ce sont des contrats qui concernent des jeunes doctorants, c'est-à-dire des étudiants qui sont en train de terminer leur doctorat ou qui viennent de terminer leur doctorat et qui sont dans la phase de préparation des concours de l'enseignement supérieur. Et par ailleurs, et ça c'est une grande nouvelle pour l'antenne universitaire, il a été annoncé par le président de l'université, Fabrice Laurenté, qui nous a rendu visite dernièrement, qu'il y aurait un poste de l'enseignement secondaire qui allait être mis à disposition de l'antenne universitaire de Mende à la rentrée 2013. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que... Non, il ne sera pas là pour faire des photocopies, toujours pas. On a des personnels tout à fait compétents pour assurer ce genre de mission.
Voilà, pour donc les matières de base un petit peu nécessaires dans tous les... Non, c'est ça?
Oui, mais pas seulement. Je rassure les candidats à ce poste. on ne va pas le cantonner à des enseignements de base. Non, là, en l'occurrence, c'est un poste en économie et gestion. Des disciplines qui sont essentielles aujourd'hui.
En tourisme, en...
Voilà. Et qui concerne toute notre offre de formation. Et bien sûr, en plus de cette équipe permanente, donc particulièrement mobilisée, parce que travailler sur une antenne universitaire, il y a quelques quand même particularités, spécificités. C'est en ce sens un métier un peu différent que de travailler dans une grande université. Mais on est aidé, notre mission de formation, par de nombreux vacataires. J'en connais là autour de la table, d'ailleurs. Et donc des vacataires...
Souvent des professionnels, d'ailleurs.
Alors, souvent des professionnels, une grosse majorité de professionnels. C'est à peu près 60 vacataires qui interviennent chez nous. Et vraiment, je tiens à les saluer, à les remercier, parce qu'ils font un travail qui n'est pas évident, hein, passer de sa pratique professionnelle pour former, enseigner. C'est pas, voilà, la pédagogie, ça ne s'improvise pas toujours. Et ils font un boulot précieux en termes aussi d'accompagnement de nos étudiants, en termes d'insertion professionnelle, et puis pour les confronter aussi à une forme de réalité à laquelle ils sont entraînés. Et donc, sur ces 60 vacataires, c'est une quinzaine d'enseignants du second degré qui viennent effectivement plutôt pour les enseignements de langue ou pour des enseignements fondamentaux, on va dire. Les autres vacataires sont donc des professionnels avec souvent des CV tout à fait remarquables. Alors, ils sont présents sur le territoire ou ils viennent d'autres départements limitrophes ou d'autres régions. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que dans nos enseignants, il y a bien sûr de nombreux collègues de l'Université de Perpignan qui jouent le jeu de se déplacer sur cette antenne délocalisée. Voilà, et ça, on peut aussi les remercier d'accorder une attention particulière aux enseignements qui sont délivrés ici à Mende.
C'est d'une grande richesse. J'imagine que ça doit être aussi une grande complexité d'organisation, parce que il y a beaucoup de...
Vous avez vécu, peut-être.
Voilà. Non, mais j'imagine que voilà, plusieurs formations, 60 intervenants extérieurs, 3 seulement sur place, ça doit être quand même un peu compliqué, mais bon.
Ouais, une question d'organisation à laquelle il faut se consacrer. Mais
de
après,
planification. Hein,
ouais, de planification qui n'est pas évidente, ça, il faut bien qu'on en convienne.
Pour les professionnels, en tout cas, c'est sûr.
Voilà, forcément, on est un peu tenu par les exigences et les contraintes des professionnels. Mais par contre, moi, les difficultés d'organisation, ça surmonte. Hein. Ce qui est plus difficile, mais ce à quoi on s'attelle, et puis globalement, je trouve que ça se passe plutôt bien, c'est la coordination entre tous ces acteurs qui viennent d'univers différents. Et moi, mon souci, c'est de créer plus de transversalité entre nos enseignements, nos expertises, parce que pour certains qui ont des postes à responsabilité, qui sont directeurs, chefs d'entreprise ou directeurs d'institution, sortir de son précaré professionnel pour d'abord pour venir l'enseigner et puis aussi pour se mettre en phase avec des collègues qui ont un cours qui est un peu connexe, un peu périphérique. Et voilà, moi mon souci c'est de créer plus de transversalité dans nos enseignements et plus de liens, mais c'est avec plaisir que j'anime ce travail de coordination et tout le monde joue.
En tout cas, moi, je peux faire un petit témoignage puisque sans me citer, elle a parlé de ses vacataires. Moi, je trouve professionnellement justement que c'est une grande richesse aussi pour les professionnels. Et ça, on oublie de le dire. Bon, c'est vrai que quand on arrive dans un cours comme ça avec des élèves, on se dit beaucoup de professionnels réagissent comme moi, c'est-à-dire on vient pour pas perdre son temps. Donc, on leur dit très clairement si on est là, c'est franchement parce que vous le valez bien, mais aussi parce que on a envie de partager avec vous notre expérience. Donc, soit vous l'écoutez, vous l'entendez, vous y participez, soit on reste pas quoi. Donc, et en général, on a une super écoute parce que le lien qui se fabrique, c'est les étudiants ont un autre regard sur nous. C'est pas le regard juste de l'enseignant enseigné. Ce rapport-là, c'est on cherche, on pose des questions aussi sur qu'est-ce qui fait la particularité dans le monde du travail, qu'est-ce qui change finalement, à quoi on va être confronté. C'est toutes ces questions-là. Et je trouve que le lien de l'université avec le monde du travail, par ce biais-là de ces vacations, c'est essentiel. Hein. Le rapport que, enfin moi en tout cas, que j'entretiens avec ces élèves est très très intéressant. Le deuxième aspect, c'est la remise en question de nos propres pratiques en tant que professionnels. Moi, ça m'aide beaucoup en fait, parce que ça me permet de me poser quand je prépare mes cours, de me poser, de regarder mon travail ou d'analyser mon travail et me dire finalement j'en suis où et quand j'en parle, de quoi je parle et quels conseils je peux donner. Et finalement, c'est un vrai regard sur son propre travail, parce qu'en tant que professionnel, on a souvent rarement le temps de faire ce travail-là, quoi. Et franchement, c'est du bonheur. Enfin, je pense que tous ceux avec qui je travaille qui interviennent aussi dans l'université, quand on en parle entre nous, c'est une belle respiration. Alors, on ne ferait pas ça 40 heures dans la semaine, c'est sûr. Même 18 heures, comme les enseignants du second degré. Mais quelques heures, c'est vraiment un beau moment.
Non, mais je crois que c'est tout bénéfice. Merci pour ce témoignage. Hein. J'en suis très touchée. Non, mais plus sérieusement, je crois que c'est d'une grande richesse pour tout le monde. Enfin, il semble dire que tout le monde y trouve son compte, donc et je m'en réjouis. Pour les étudiants, pour nous, oui, c'est d'une grande diversité aussi de points de vue.
Et... Après, les étudiants, ils mettent des notes sur les intervenants. Elle a un classement, mais bon, qu'elle ne peut pas divulguer à la radio. Mais...
je vais voir, ouais.
Et donc, j'imagine que Nicolas est très très mal noté.
Je sais pas, ils veulent pas me le dire.
Bon, tant qu'ils te gardent, de toute façon, c'est que tu dois être au-dessus de la moyenne.
Alors, vous plaisantez, mais il y a un véritable risque dans l'évaluation des enseignants. Alors, pas par nos étudiants, hein, mais c'est une vraie question. Il faudra faire un thème sur la question de l'évaluation qui est d'actualité. C'est une question qui est d'actualité en plus. Merci.
Peut-être juste parler des étudiants, parce qu'on on a parlé des formations. Je sais pas souvenir que vous nous ayez dit le nombre d'étudiants.
Oui, pardon. Donc cette année, c'est 155 étudiants qui sont présents à l'antenne universitaire.
Et est-ce que Mende est attractif pour ces étudiants d'où viennent-ils aussi?
Alors,
est-ce qu'ils viennent de loin?
Si on en juge les données chiffrées qu'on a sur le nombre de candidatures depuis ces 5 dernières années, oui, il y a un attrait à venir étudier à Mende, puisque on a une augmentation mais très significative du nombre de dossiers de dossiers de candidature. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent tous. Et par contre, donc en termes de visibilité, on est tout à fait visible, on peut nous trouver et les étudiants n'ont aucun souci à venir étudier à Mende. Je pense qu'ils y trouvent aussi de nombreux avantages. Après, la lisibilité, elle tient au fait que l'on puisse avoir une forme de liberté dans la conception de nos programmes d'enseignement. Et ça, c'est un travail de longue haleine hein, pour qu'au niveau du ministère aussi, on puisse évaluer l'offre de formation de l'Université de Perpignan, mais prenant en compte les particularités et un projet spécifique à l'antenne universitaire de Mende. C'est du boulot, mais on va y arriver. Et on est en train de gagner un peu nos lettres, nos noblesses, notamment sur les niveaux master. Il y a un niveau d'exigence qui est quand même important, puisque les masters doivent être adossés à une activité scientifique qui est reconnu. Voilà. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on doit faire évoluer les choses, c'est-à-dire renforcer nos activités de recherche. C'est une activité qu'on a hein, individuellement, mais il faut qu'on puisse l'associer à cette structure pour qu'ensuite, on puisse, en toute légitimité, demander une habilitation de master qui soit spécifique à Mende, tout en restant, bien sûr, tout à fait en concordance avec les objectifs de l'Université de Perpignan. Mais du coup, à travers une offre de formation plus spécifique, on pourrait travailler plus, de manière plus frontale sur des particularités. Enfin, ce territoire se prête, par exemple, à une formation sur les questions de tourisme sport-nature, par exemple. C'est une option, enfin, une spécialisation qui a été un peu abandonnée là, ces dernières années, de réforme en réforme. Voilà, c'est des champs qu'on aimerait bien réinvestir et on y travaille.
Bien, ben, on aura l'occasion d'en reparler. Forcément, le timing est un peu serré aujourd'hui, donc on vous remercie d'avoir participé. Alors, on va faire une dernière coupure musicale. Et avant, simplement, peut-être qu'on excuse certains qui devront partir pendant cette coupure musicale pour reprendre leurs activités.
Les blanches fraîches le matin, ouais, les doses tendres et les sereines, ouais, excellente. Oh, ouais, l'histoire, allez, on va danser ce soir au matin, couché, ouais, désespérante. Oh, elle dit toujours bonjour comme ça, ouais, elle dit toujours au revoir comme ça, ouais, elle dit toujours je veux ça, 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 ouais, fatigante. Voilà de la suite dans les idées, soudain, ouais, elle te dit bonsoir. Quand elle danse, belle franche, une reine. Oh, elle est pour moi, tout ça pour moi. Un ange qui danse autour de moi. Et pourtant, ouais, elle dit toujours bonjour comme ça. Ouais, elle dit toujours au revoir comme ça. Ouais, elle dit toujours je veux ça, ça, ça. Ouais, elle est fatigante. Oh, elle est pour moi.
FM Le Mag.
C'est un peu le bazar aujourd'hui, vous l'aurez compris.
Ah, c'est le direct.
Voilà, il y a des petits aléas de direct, c'était pas le bon générique. Bon, c'est pas grave.
Ça fait moins passer la bouteille de gingembre, s'il te plaît.
et oui, pourtant.
Faut arrêter de picoler, Guillaume.
C'est ça. Faudrait que j'arrête le matin le calva à la place du café.
Ça, calva ça... camembert, remarque, c'est bon.
Bien, la dernière page de ce magazine sur 48FM, c'est une page musique avec Loïc Loisel. Et on va parler d'un orchestre d'harmonie.
Bonjour.
Voilà, bonjour. Donc vous êtes professeur de, alors je sais pas de quoi.
De clarinette.
De clarinette à l'école départementale de musique de la Lozère. Et vous avez, dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Mende, une mission de création d'un orchestre d'harmonie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de quoi s'agit-il et voilà. Essayez de nous expliquer quel est l'intérêt aussi de cette création. Expliquez-nous tout.
Eh bien, écoutez, je ne connais pas l'historique des harmonies à Mende, en Lozère, parce que je ne suis pas issu de cette région. Mais donc, j'ai pour mission de mettre en place un ensemble un ensemble d'harmonies constitué donc d'instruments à vent, de bois, de cuivre, de percussion. Et cet orchestre sera une sorte de vivier de praticiens de musiciens amateurs qui ont envie de venir jouer ensemble dans un ensemble et dont le but est d'être une vitrine à la fois pour la ville mais aussi pour le département au point de vue musical. Voilà, donc
ça commence par quoi en fait ? Par les musiciens ou par l'institution ?
Par des musiciens et par des répétitions et par mettre en place quelque chose avant de pouvoir il va y avoir un projet artistique qui va être mis en place autour de concerts, on va aussi faire des cérémonies commémoratives de la ville, mais il faut d'abord démarrer, il faut d'abord avoir des musiciens
et oui c'est ça
pour pouvoir mettre en place quelque chose, une saison artistique.
Donc vous lancez un appel à ces musiciens ?
Voilà, tout à fait. Donc il y a un vivier au sein de l'école départementale de musique, mais donc il y a une réunion qui est programmée le mardi 13 novembre à 20h à l'école départementale de musique, donc en salle 9. L'école départementale se situe 13 boulevard Britex, donc tout près d'ici. Et donc cette réunion fera l'objet d'une première prise de contact où on vous présentera le projet artistique de l'harmonie et aussi sera créée une association. Dans lequel on demandera à des gens de participer et de constituer un noyau dur autour de ce projet artistique qui m'a très intéressant.
Alors, c'est réservé aux musiciens qui sont en cours à l'EDML ou pas du tout ?
Ah non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. C'est à la fois ouvert aux musiciens de l'école départementale de musique, mais à tous musiciens amateurs qui a
quel niveau pratique, peut-être ?
Il faut pas avoir suivi un cursus déjà ou être
non absolument pas. Il y a un
master 2, par exemple. De...
Non, absolument pas. non, il faut un niveau. Un niveau honnête.
Flûte à bec, école primaire.
Non, plus que ça quand même. Il faut un bon niveau instrumental, mais après, c'est ouvert à tous. Quoi. Donc les instruments, par contre, il y a des instruments qui sont proscrits. Les instruments à cordes ne font pas partie d'un ensemble à vent. Donc les instruments dont on a besoin sont flûte, clarinette, saxophone, hautbois, pour les bois. Pour les cuivres, c'est donc trompette, cor, trombone, tuba, euphonium, percussion. Et puis, éventuellement, on se rajoute dans un orchestre d'harmonie des basses. Donc, il peut y avoir des contrebasses à cordes ou des violoncelles. Voilà.
Et des basses normales, non ?
C'est tuba, euphonium, voilà. Basse, voilà.
Ah, je suis un spécialiste de la basse.
Vous voulez dire guitare basse ?
Ouais, guitare basse. Non.
C'est plutôt dans la musique actuelle.
Ouais, d'accord.
Et alors, qu'est-ce qu'on joue quand on est un orchestre d'harmonie ?
Le registre.
Ouais. Voilà.
Et le registre est totalement ouvert et très éclectique. Ça va à la fois de la musique classique, mais ça va aussi vers le jazz, vers les musiques du monde, vers les variétés. Donc, c'est un répertoire qui est très large.
Très éclectique. Ouais.
Voilà, très éclectique. Et il faut en faire pour tout le goût, pour tout le monde. Il faut que ça soit très attractif. Donc, évidemment, il faut avoir tous les registres possibles de musique. Et le répertoire d'harmonie est très riche, de toute façon.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai souvenir, alors je ne suis pas un vieux mandois, hein, mais je suis là depuis plus de 20 ans. J'ai le souvenir qu'il y avait une harmonie qui avait été faite par notamment une association qui était affiliée à la Ligue de l'Enseignement et qui avait monté une espèce d'harmonie, bon, il y a de ça plus de 20 ans. Hein.
Oui.
Et récemment, ben, j'ai eu vent, c'est un jeu de mots, qu'il y avait un groupement de ces gens-là qui s'étaient retrouvés. Pour reconstituer une harmonie. Est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec ces gens-là ou est-ce qu'ils feront partie de la future harmonie ou pas?
Je pense qu'ils feront partie de la future harmonie. Actuellement, il y a un travail qui est fait au niveau de la ville et au niveau de l'école départementale pour rassembler un vivier, comment dire, de musiciens. Il y a toute une liste qui a été mise en œuvre et actuellement. D'accord. Ces deux institutions sont en train de reprendre contact avec ces gens pour les informer de cette création d'une nouvelle harmonie et pour les inviter à y participer. Oui,
parce que vous parliez tout à l'heure des commémorations, mais c'est vrai qu'on a perdu, mais pas seulement à Mende, hein, dans beaucoup de villes, on a perdu ces commémorations avec ces grandes harmonies qui interprétaient, bon, c'est vrai,
les hymnes nationaux.
Les hymnes nationaux, principalement. Oui. Mais au-delà de ça, ça donnait une vie, une force, en tout cas au caractère de commémoration, une force très importante. J'ai cru comprendre que le maire de Mende était très attaché à ces commémorations et à cette harmonie. Donc, il y aurait une convention qui serait signée, c'est ça entre,
Oui, une convention vient d'être signée. Et donc, en ce qui concerne les commémorations, il va falloir attendre un tout petit peu. Que l'orchestre se mette en place et qu'elle soit dynamique et cohérente pour pouvoir participer aux cérémonies. Mais évidemment, pour moi, ça fait partie.
Pour vous, à peu près. À la rentrée prochaine, vous pensez
le plus tôt possible. J'espère qu'il va y avoir un vivier suffisant de musiciens pour que cela vive très vite et qu'il y ait un potentiel. Je pense qu'il y a un potentiel de musicien amateur très important ici, vu ce qu'on me dit.
Et vous avez d'ores et déjà un rythme de répétition qui est
oui,
défini.
Oui, ça sera de manière hebdomadaire, mais par contre, le jour n'est pas encore défini, puisqu'on le définira le jour de la réunion de cette réunion, voilà, avec l'ensemble des participants.
D'accord, voilà. Oui, donc c'est quand même un engagement conséquent.
C'est un engagement pour chaque participant, pour chaque musicien, sachant qu'ils s'engagent à venir de manière hebdomadaire, mais aussi à participer aux concerts et à participer aux cérémonies. Donc c'est un engagement. Mais...
Oui, c'est pour ça que plus le vivier sera important, plus après vous pouvez exactement. Faire des rotations ou
exactement.
Des paniques.
Mais vous savez, comment dire, pour les cérémonies, il ne faut pas croire qu'il faut très peu de musiciens. Il faut beaucoup de musiciens, ouais. Même pour les cérémonies. Et pour moi, il ne faut pas qu'il y ait deux catégories. Une catégorie pour les concerts avec un grand orchestre et puis une petite catégorie pour les cérémonies. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit le même orchestre qui se produise dans toutes les manifestations.
Oui, puis comme vous avez parlé de projet artistique, c'est un projet aussi associatif, donc qui associe des gens sur exactement. Un même projet pour le défendre et le mettre en valeur. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un engagement, voilà. Comme dans toutes les associations d'ailleurs.
Voilà, autour de l'envie de jouer, de jouer ensemble, la convivialité, se retrouver ensemble, des plus anciens avec des plus jeunes. Voilà, donc j'invite vraiment tout le monde à venir, tous les musiciens qui nous écoutent, à venir participer à cette harmonie.
Et est-ce que vous avez déterminé une participation dans le cadre de cette association ou pas du tout?
Financière, vous voulez dire?
Pour ceux qui sont intéressés, c'est les questions qui vont se poser, je pense qu'ils vont se dire.
Alors pour les élèves de l'école départementale, ça sera gratuit puisqu'ils payent déjà une cotisation pour les pratiques collectives. Et quant aux personnes extérieures, adultes ou même ou ados, je ne sais pas, il y aura une cotisation qui n'est pas encore définie, mais ça sera une cotisation définie par l'association. Je ne sais pas de quelle hauteur encore.
D'accord. Est-ce qu'il faut venir avec ces instruments?
Le jour de la réunion?
Non, mais après, est-ce que vous fournissez, est-ce que l'association va fournir les instruments
non.
Ou est-ce que ceux qui sont amateurs et qui ont perdu leur flûte à bec, par exemple, bon, c'est pas très cher une flûte à bec, mais si c'est un tuba ou un truc comme ça, est-ce que vous pouvez fournir ou est-ce qu'il faut qu'ils viennent avec leurs instruments?
Alors, c'est une question qui n'a pas encore été résolue, mais a priori, c'est plutôt les gens viennent avec leurs instruments. D'accord. Les musiciens amateurs ont tous leurs instruments. Voilà.
Alors, peut-être vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous motive, vous, hein, qui êtes en charge de ce projet, qu'est-ce qui vous motive à développer ce projet?
Eh bien, écoutez, je suis issu d'une famille qui n'était pas du tout musicien, et j'ai commencé la clarinette à 11 ans, et puis au bout d'un an, mon professeur de clarinette m'a dit, écoute, tu vas aller faire l'harmonie. J'étais dans un tout petit village en Normandie à Pont-l'Évêque. Et au bout d'un an, je me suis trouvé.
Ah, le bled.
Et voilà le lien.
C'est le lien avec tout à l'heure, tu sais. Un Pont-l'Évêque dans du Dieu.
Donc, au bout d'un an, je me suis trouvé dans une harmonie. Au début, complètement largué, parce que je n'avais pas le niveau, mais entouré par des adultes qui ont été pour moi des tuteurs et qui m'ont fait énormément progresser, qui m'ont donné le goût de l'harmonie. Et pour moi, c'était un véritable tremplin. C'est même ce qui m'a donné envie d'en faire mon métier et ce qui fait ma passion aujourd'hui. Et pourquoi cet intérêt pour ce poste, pourquoi je me suis présenté ici, c'est principalement aussi parce qu'il y a cette création d'harmonie. J'ai une expérience dans d'autres villes de direction d'orchestre d'harmonie et donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Voilà, la convivialité, le jouer ensemble, rassembler des gens de diverses générations autour de la musique, c'est passionnant.
Bien, bah, la force de l'association. Ouais. Mmh. On en parle depuis ce matin, mais c'est vrai que c'est franchement une sacrée force. On ne le dit pas assez à nos élus que ça fabrique du lien social et quand dans cette période un peu difficile, hein, de vache maigre, comme on dit, je trouve que c'est une très bonne chose de le mettre en valeur aujourd'hui. Alors on vous remercie, on vous souhaite beaucoup de courage.
Merci.
Et puis on sera là, bien sûr, pour se faire l'écho, hein, Guillaume.
Bien sûr. Bien sûr, voilà, bien sûr.
On ne pouvait pas rentrer à 100, hein, mais je pense une bonne vingtaine, faire un petit enregistrement studio, ça peut être pas mal, quoi.
Voilà, donc on vous remercie. On rappelle la date, c'est le 13 novembre, c'est ça ?
Le 13 novembre à 20h dans les locaux de l'École départementale de musique en salle 9.
Voilà, venez nombreux, sans vos instruments, hein, ce coup-ci.
Exactement.
Et puis bah, après, vous aurez plein de choses à découvrir. On va conclure parce que, bah, comme le disait, on est là depuis ce matin et il va bientôt être l'heure de retourner travailler. Et donc, bah, on va vous remercier déjà tous invités autour de cette table d'avoir été présents pour ce magazine. On va espérer pour vous, auditeurs, que cette émission était intéressante. Et puis, bah, vous pourrez retrouver cette émission tronquée, puisque j'ai oublié d'enregistrer le début sur le site 48fm.org.
Et très perturbé aujourd'hui.
Ouais, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et vous retrouverez la rediffusion de la fin de l'émission, c'est jeudi soir à 18h11. Je m'excuse pour nos intervenants qui ont parlé en premier, notamment pour Héloïse. Et puis donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 48FM, le mag.
Merci Guillaume.
Et n'oubliez pas, demain soir, les doigts dans la reprise à 20h sur 48FM, la nouvelle émission avec les reprises. Donc soyez à l'écoute.